notre économie est pilotée par des gens qui ne sont pas élus par nous, des gens que nous ne pouvons pas influencer, des gens que nous ne pouvons pas intimider, des gens que nous ne pouvons pas tenir responsables de leurs choix politiques et de leurs décisions politiques. Alors, l'existence même de cette monnaie est une dictature au niveau macro, avant même de commencer à parler de la dictature créée au niveau micro dans chaque pays.
Des millions de Français ne savent pas ça. Et parce qu'ils ne savent pas ça, quand ils voient les Africains immigrés en France, ils commencent par s'énerver. Pourquoi vous les laissez rentrer? Mais ils ne comprennent pas le rôle que leur pays joue, en fait, dans le maintien de la pauvreté dans ces pays-là.
Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe. Pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Salut, et bienvenue dans le deuxième épisode sur Bitcoin et le franc CFA. Dans l'épisode précédent, je faisais la lecture d'un article qui expliquait les mécanismes du franc CFA, tout en allant rapporter la réalité de deux personnes sur le terrain. Farida Nabourema et Fodé Diop. Dans cet épisode, je rencontre Farida. Farida est militante et activiste pour les droits humains au Togo et va nous livrer un récit vu du terrain. Elle nous relate l'histoire du pays et de l'avènement de la dictature soutenue par des militaires français après leur assassinat du président Olympio, qui avait simplement, quelques semaines auparavant, proposé de créer un franc togolais et de quitter l'influence du franc CFA. Après l'approche historique, Farida nous raconte comment le franc CFA favorise la paupérisation des populations et comment il représente une violation de leur souveraineté. Par cet épisode, on verra la dimension politique que revêt la monnaie. Et on discutera également du rôle que Bitcoin peut jouer dans cette situation. Farida nous le dit à la fin, la première chose à faire si on est sensible à ces questions, c'est de se renseigner et de diffuser l'information. En effet, de tout temps, ce sont les humains lorsqu'ils parlent entre eux qui amènent les changements. Et pour parler, il faut savoir un petit peu de quoi on parle, il faut savoir écouter et rester humble. Le pouvoir est entre tes mains, utilise-le à bon escient. Si le podcast te plaît et que tu veux le voir durer longtemps, envoie-moi quelques satoshis directement sur Lightning en installant Breeze Wallet. Tu verras, c'est très simple, tout se fait sur téléphone. C'est un jeu d'enfant d'entrer dans le futur. Littéralement, un jeu d'enfant. Tu trouveras l'explication dans les notes de l'épisode. Il existe également un groupe Telegram où tu peux venir poser tes questions et te renseigner sur le Bitcoin. Si tu écoutes sur Apple Podcast et que tu as 30 secondes avant de lancer l'épisode, merci de me laisser une ou quelques étoiles parce que je pense que ça va aider d'autres personnes à trouver le contenu. Donc si tu as le temps et que tu veux me soutenir, s'il te plaît, prends ce temps. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute, un bon épisode et une belle découverte. Reste humble et stack des sats. Vis sur toi, vis sur moi, vis sur nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, je rencontre Farida Nabourema. Farida est togolaise et auteure. Elle lutte activement pour la défense des droits humains et est figure de proue du mouvement démocratique au pays. Bonjour Farida et bienvenue, je suis vraiment honoré de te rencontrer.
Bonjour et merci de me recevoir.
Farida, pour te présenter aux auditeurs et auditrices, nous dire qui tu es et un petit peu quel est ton parcours.
Merci. Vous l'avez déjà dit en résumé, je suis une militante de la démocratie et des droits de l'homme. Je suis née au Togo, où j'ai grandi et depuis le jeune âge, précisément depuis mon adolescence, ai été impliquée directement dans un combat de résistance contre la plus vieille dictature du continent africain, qui est celle de la famille Nyasimbe, qui dirige le Togo depuis 54 ans.
Très bien, merci Farida. Et que peux-tu nous dire sur cette dictature qui est justement une des plus anciennes?
Le 13 janvier 1963, il y a eu un coup d'État au Togo dans lequel le président élu du peuple togolais, Sylvanus Olympio, a été assassiné. Le coup d'État a été orchestré par des anciens militaires de l'armée coloniale française qui ont été recrutés par le gouvernement français pour commettre ce coup d'État et qui fait de ce coup d'État le tout premier coup d'État sur le continent africain. Alors, après l'assassinat de Sebalu Solumpio, il a été remplacé par Nicolas Grinsky, qui était non seulement son beau-frère de sang, parce que Nicolas Grinsky est le frère de l'épouse de Sebalu Solumpio, mais en plus, il était le leader du Parti du Progrès, qui a toujours été considéré comme un parti proche de la France et qui voulait une continuité de la colonisation française au Togo. Bien entendu, 4 ans après ces coups d'État, les Togolais qui étaient agacés par la continuité du système colonial ont commencé par se révolter et ont pris les rues pour demander le changement. Et la France a fait appel de nouveau à ses anciens militaires qui ont fait un deuxième coup d'État qui a porté Adémania Simbé à la tête de la présidence togolaise. Adémania Simbé dirigera le Togo pendant 8 ans. Et quand il est décédé en 2005, l'ancien président français Jacques Chirac a dit, et je cite, que la France perd un grand ami et lui un ami personnel, ce qui était totalement inconcevable pour nous les Togolais qui avons subi l'horreur de la dictature d'Idi Amin. Mais la France a jeté son dévolu sur le fils de Adémania Simbé, Faure Gnassingbé, a soutenu le coup d'État qu'il a fait sous le décès de son père. Et jusqu'à aujourd'hui, Faure Gnassingbé, le fils d'Adéma, est président du Togo. Il est le seul chef d'État de la sous-région ouest-africaine qui sert plus de 2 mandats. Il est déjà à son 4e mandat d'ailleurs. Et il dirige le Togo d'une main de fer comme son père avant lui, et la même famille est au pouvoir depuis 54 ans.
Ok, c'est vraiment beaucoup. Donc, est-ce que ça veut dire que finalement, d'après ta lecture, la France joue ce rôle d'allié de ce dictateur? Qu'est-ce que tu fais pour lutter contre ça? Est-ce que tu as un rôle d'éducation?
La France n'est pas alliée à la dictature togolaise. La France a créé la dictature togolaise. La dictature togolaise est un pur produit du laboratoire colonial français. Et je m'explique. D'abord, en 1946, les premières élections ont eu lieu sous les colonies et sous l'ère de De Gaulle, qui ont permis aux pays colonisés par la France de prendre part aux élections législatives en France et d'avoir des personnes représentant les peuples colonisés à l'Assemblée nationale française. Après ces élections, au Togo, le Togo qui était d'abord une colonie allemande est devenu française après que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale en 1919. Le Togo a mis à l'Assemblée nationale, a élu un nationaliste qui voulait l'indépendance. Et la présence de nationaliste au Parlement français a beaucoup dérangé la France, qui ne voulait pas du tout commencer à parler de l'indépendance. Alors, 5 ans après, quand les nouvelles élections ont été organisées, la France a organisé toute une machine de fraude en empêchant aux populations de voter et en mettant au niveau des administrations locales des commis qui s'assuraient que seulement les gens qui étaient pro la France avaient le pouvoir de participer aux élections. Et avec cette fraude-là, la France a réussi à mettre maintenant à l'Assemblée des Togolais, certes, mais qui étaient là pour militer pour les intérêts de la France et qui, au niveau du Parlement, ne parlaient plus d'indépendance, mais voulaient la continuité de la colonisation en disant que le peuple togolais n'était pas prêt à céder aux indépendances. Mais les nationalistes se sont organisés dans l'opposition, ils ont pétitionné les Nations Unies, et des années après, malgré le fait que la France avait la même mise sur le système électoral, les Nations Unies sont intervenues et ils ont organisé une élection au Togo le 27 avril 1958 que les indépendantistes ont gagné. Et quand les indépendantistes ont gagné les élections, Sylvanus Olympio, le père de l'indépendance togolaise, parce que c'était lui qui était le leader du parti d'indépendantistes, le CUT, avait été exclu du processus électoral par la France. Pourquoi? Il avait été arrêté 2 années plus tôt pour un crime en principe qui ne devait pas être un. Sylvanus Olympio était le directeur Ouest-Afrique de la compagnie Unilever. Et quand il travaillait pour Unilever, il était payé en pounds sterling et son argent était stocké dans un compte bancaire dans la Gold Coast d'à côté, qui est aujourd'hui le Ghana. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour pouvoir être au devant de la lutte politique togolaise, Olympio a démissionné. Et il est rentré au Togo. Maintenant, il voulait construire une maison et il a écrit un chèque à son architecte pour aller encaisser l'argent au Ghana. L'architecte a été arrêté par les autorités coloniales françaises. Olympio a été arrêté et condamné pour possession de devises étrangères. Pour vous dire que l'argent, la monnaie est déjà un problème est déjà entré en jeu dans la résistance togolaise. Parce qu'à l'époque coloniale, il était interdit aux citoyens indigènes de posséder une monnaie autre que la monnaie créée par la puissance coloniale. Et dans le cas des pays francophones, c'était le CFA. Alors, Olympio a été arrêté, emprisonné pour ça, et il a été démis de tous ses droits civiques. Il ne pouvait pas se présenter aux élections et il ne pouvait pas voter. Alors, en 58, quand les élections ont eu lieu et que les Togolais ont voté non à la colonisation et ont exigé leur indépendance à plus de 97%, la France voulait s'entendre avec d'autres membres de partis de l'opposition d'Olympio pour essayer d'empêcher à Olympio de devenir président. Mais le chef du parti Juventus, qui était l'aile de la jeunesse du parti CUT d'Olympio, avait refusé la proposition de la France en disant que quand la tête est là, on ne met pas le chapeau sur le genou. Ce qui veut dire que si Olympio, leur leader, est là, ce n'est pas à eux de se substituer à lui et c'est à Olympio que devait revenir naturellement la magistrature suprême. Et c'est comme ça qu'Olympio deviendra le tout premier président du Togo. Le Togo deviendra le tout premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir voté non contre la colonisation française le 27 avril 58. 6 mois plus tard, Sékou Touré réalisera le même exploit en Guinée, mais obtiendra son indépendance directement, contrairement au Togo, qui a accepté de rembourser les dettes soi-disant coloniales pour la France et a obtenu son indépendance 2 ans plus tard. Alors, quand je dis que la dictature togolaise a été fabriquée par la France, je vais vous expliquer maintenant pourquoi, après avoir fourni ce contexte historique qui est très important, sinon on ne comprendrait pas forcément les liens et on penserait que nous sommes dans les théories du complot, nous sommes ceux-là qui pensent que tous nos problèmes ont été créés par la France ou par les colons. Alors, quand Olympio est devenu président en 1960, il a dit qu'il était important que le Togo devienne financièrement, économiquement indépendant. Et je rappelle qu'Olympio est un économiste qui a été formé à la London School of Economics, un monsieur qui a travaillé très longtemps dans le domaine financier et économique et qui comprend l'importance de la monnaie. Alors, le 12 décembre 1962, l'Assemblée togolaise a voté une loi portant la création du franc togolais. Et 3 mois plus tard, le Togo devait se retirer du franc CFA qui a été imposé à toutes les colonies françaises par la France. Figurez-vous qu'exactement 1 mois après le vote de la portant création du franc togolais, soit la nuit du 12 janvier 1963, un coup d'État a eu lieu. Et dans cette nuit-là, de la nuit du 12 au 13, Sylvanus Olympio, le président du Togo, a été assassiné. Il a été assassiné par les soldats de l'armée coloniale française. Et le seul crime qu'il a commis, c'est d'avoir voulu l'indépendance économique de son pays, le Togo. Et c'est pour ça que ces militaires-là qui ont commis ces coups d'État sont restés au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, faisant de nous la plus vieille dictature du continent africain.
Ok, donc si je reprends, dans le fond, on voit ici que la France a, dans un premier temps, empêché Olympio d'arriver au pouvoir en l'accusant d'avoir utilisé des devises étrangères. Donc finalement, dans un premier temps, grâce de nouveau au franc CFA, la France a essayé de maintenir une forme de contrôle sur son ancienne colonie. Et puis le moment où on a voulu changer la monnaie, de nouveau, il y a eu une action de la France pour empêcher le pays de changer vers le franc CFA. Mais quels avantages a la France à maintenir les pays dans le système du franc CFA? Ou peut-être, avant même de commencer cette question, peux-tu nous expliquer ce qu'est le franc CFA et comment il est apparu?
Le franc CFA, d'abord le mot CFA, le sigle. Initialement, le sigle signifie colonie française d'Afrique. Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc CFA a été créé en fonction du modèle nazi. Les nazis avaient créé une monnaie qui était attribuée uniquement aux pays sous leurs occupations durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, la France a recopié ce modèle qu'il a imposé à toutes ses colonies en Afrique. Et donc, toutes les colonies françaises africaines, aujourd'hui, à l'exception de la Guinée qui a rompu totalement avec la France en 1958, utilisent cette monnaie coloniale et c'est au total 15 pays d'Afrique qui utilisent cette monnaie coloniale. Alors, en quoi est-ce que le CFA avantage la France? Le CFA, en fait, ne doit pas être pris comme une seule entité. Le CFA, c'est un maillon qui réunit toute une chaîne que la France a créée pour pouvoir continuer à maintenir sa main sur les anciennes colonies africaines. Et comment est-ce que ça fonctionne, en fait? Avec le CFA, la France détient d'abord plus de 65% de nos réserves naturelles dans la Banque française. Et par réserve, je parle de notre or. La France détient nos réserves dans sa banque, soi-disant pour garantir notre monnaie. Et en plus de ça, elle détient 15% pour garantir ce qu'elle appelle la convertibilité et prévenir l'inflation. Grosso modo, nous avons pratiquement 80% de nos réserves qui sont chez la France en permanence. Et la France profite de ces réserves-là qui génèrent des milliards chaque année, de francs chaque année, mais qui ne sont pas redéversés sur nos économies. Mais non seulement 80% de nos réserves sont en France, quand nous avons des déficits monétaires et que nous avons besoin d'argent, contrairement à d'autres pays qui ont leur propre banque centrale qui peuvent imprimer de l'argent et remettre dans l'économie pour pouvoir la faire marcher, les pays sous le CFA doivent emprunter avec intérêt de leurs propres réserves chez la France. C'est-à-dire, la France nous prête notre propre argent avec un intérêt. Et c'est des centaines de milliards de francs que la France empoche depuis plus de 50 ans, juste avec ce système. En plus de ça, le CFA est arrimé au franc français, ensuite à l'euro. L'euro est une monnaie qui est très forte, contrairement au CFA qui est une monnaie qui est très faible. 1 euro fait au total 655 francs CFA. Et par conséquent, ça conduit à déjà une surévaluation de notre monnaie et cela ne nous rend pas compétitifs sur le marché international. En plus du CFA, le France a créé un pacte colonial avec ses pays qui fait que les entreprises françaises et l'État français a une priorité quand il est question de l'acquisition des marchés internationaux et quand il est question des échanges commerciaux. Donc, quand nous voulons vendre nos matières premières, que ce soit les matières premières agricoles ou minières, nous devons d'abord les vendre à la France et c'est quand la France ne peut pas ou ne veut pas les acheter maintenant qu'on peut les proposer à d'autres. C'est tout un système qui a été créé et qui permet à la France de continuer de bénéficier de façon continue et interminable de nos ressources dont nous-mêmes nous ne pouvons pas disposer.
Ça veut dire que finalement, dans la construction du franc CFA, viennent toutes sortes de contraintes qui ne sont pas au service des pays qui utilisent cette monnaie. Ça veut dire en quelque sorte que cette monnaie n'est pas au service des peuples qui en sont les utilisateurs, c'est ça que je comprends?
C'est bien cela. Et figurez-vous que tous les anciens chefs d'État africains qui ont osé critiquer, dénoncer ou souhaiter se retirer du CFA ont été ou soit assassinés ou enlevés par coup d'État. Je cite Sylvain Soulouki du Togo qui était le premier, il y a Modibo Keïta du Mali qui a été enlevé, il y a Thomas Sankara du Burkina qui a été assassiné. La liste est longue, mais tous les dirigeants africains qui ont essayé de se démarquer du CFA ont été assassinés. Et ce sont les gens que la France a mis au pouvoir qui peuvent garantir la continuité du CFA, qui sont toujours au pouvoir. Et dans certains pays, leurs enfants les ont remplacés, comme c'est le cas au Togo, au Gabon ou au Tchad, où les mêmes familles, père et fils, sont au pouvoir depuis plusieurs décennies.
OK. Est-ce que tu peux décrire, parce que si je suis un auditeur ou auditrice, peut-être que j'ai du mal à réaliser ce que ça veut dire d'avoir un franc pas compétitif, de pas avoir la priorité quand je fais les échanges commerciaux, d'être rimé au franc français. Est-ce que tu pourrais donner une explication vue de l'intérieur? Donc, si, mettons, je suis citoyen togolais, comment ça va se manifester dans ma vie quotidienne, le fait d'utiliser le franc CFA? Comment ça va m'impacter dans ma qualité de vie? Est-ce que tu aurais des exemples à partager de ça?
Bien sûr. D'abord, le franc CFA n'est pas une monnaie qui est convertible. Vous voyez, quand vous prenez l'euro, vous le changez directement au dollar. Mais le CFA ne peut pas être changé directement à n'importe quelle autre monnaie. Et vous savez, il y a deux banques centrales qui régissent les pays du CFA. Il y a la BCAO et la Banque de l'Afrique centrale. Celle de l'Afrique de l'Ouest régit les pays francophones utilisant le CFA en Afrique de l'Ouest et l'autre régit ceux qui sont en Afrique centrale. Même les CFA fournis par les deux banques, que ce soit celle de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, ne sont pas convertibles entre elles. Ce qui veut dire que si j'ai le CFA et que je vais acheter du pound, il faut d'abord que je convertisse mon argent en euros. Et après avoir converti mon argent en euros, maintenant, je peux acheter le pound. Et à chaque fois que je convertis mon argent en euros, je perds. Et pour garantir ce que la France appelle la convertibilité du CFA, nous payons 15 % de frais. Ce qui veut dire que si, par exemple, moi, j'ai l'équivalent de 1 000 euros en CFA et que je veux acheter du pound ou bien du dollar américain, d'abord, je convertis en euros. La France prend son pourcentage et c'est à partir de là maintenant que je peux aller convertir en dollars. Donc, nous perdons, nos États perdent des milliards comme ça parce que tout argent qui rentre dans nos pays doit passer par ce processus parce que le CFA n'est pas convertible. Ça, déjà, c'est un problème. Secondo, quand je dis que la monnaie n'est pas compétitive, vous savez, le taux, la valeur d'une monnaie est déterminée en fait par les fluctuations sur le marché. Aujourd'hui, le dollar peut avoir telle valeur et demain, ça peut déprécier ou ça peut apprécier en fonction des importations, des exportations, de la production de ces pays. Mais nous, dans notre pays, en fait, la France a créé un taux fixe. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, le CFA a toujours la même valeur. C'est 655 francs CFA pour 1 euro. C'est-à-dire que l'économie soit bonne ou pas, qu'il y ait inflation ou pas, qu'il y ait crise économique ou pas, notre valeur est la même. Et le fait que la valeur du CFA est la même, certains vont dire que au moins ça nous évite l'inflation, mais la réalité est que ça nous empêche de savoir quel est véritablement notre pouvoir monétaire, comment se portent véritablement nos économies, et nous sommes incapables de définir des politiques monétaires en fonction de notre économie, c'est-à-dire que tout se passe bien ou pas, nous avons toujours la même valeur. Donc, souvent, quand on a des opportunités, nous ne pouvons pas, comme d'autres pays, ajuster la valeur de nos monnaies pour pouvoir avoir accès à certains marchés. Ceci rend nos matières premières non compétitives comparées à d'autres pays de la sous-région, comme du Ghana ou du Nigeria, par exemple, où la monnaie est beaucoup plus fluide. Et ce manque de compétitivité-là, ça se répète sur nos marchés. Et quand vous regardez aujourd'hui les pays de l'Afrique, la majorité des pays qui sont les plus pauvres du continent sont des pays qui utilisent le franc CFA.
Oui, en plus, j'imagine que ça veut aussi dire donc les pays sous le régime du franc CFA n'ont pas le choix de leur politique monétaire et en addition subissent la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Si la Banque Centrale Européenne prend une direction dans un certain sens, ça impacte directement ces 15 pays-là qui finalement n'ont pas leur mot à dire sur cette politique-là, qui n'ont pas de parlementaires qui représentent leurs idées et donc qui subissent des décisions qui sont bien au-delà de leur processus démocratique dans le fond. Donc il y a une espèce d'ingérence politique complète là, à cet endroit-là.
Le CFA est en elle-même une monnaie dictatoriale.
C'est quoi la dictature? C'est imposer un système politique aux gens sans qu'ils n'aient la possibilité d'influencer les choix et les décisions politiques, qu'ils soient sanctionnés s'ils ne sont pas d'accord avec ces choix et positions en politique, et sans qu'il y ait de redevabilité vis-à-vis des citoyens. Dans le système européen, s'il y a des crises économiques, cela se reflète par le choix des populations. Les gens savent que durant les élections européennes, certains députés pourraient perdre leur siège, ou c'est la gauche qui domine, ou c'est la droite qui domine. Mais dans nos cas, quoi qu'il arrive, en fait, nous ne sommes pas capables d'avoir une certaine redevabilité vis-à-vis de notre économie. Pourquoi? Parce que notre économie est pilotée par des gens qui ne sont pas élus par nous, des gens que nous ne pouvons pas influencer, des gens que nous ne pouvons pas intimider, des gens que nous ne pouvons pas tenir responsables de leurs choix politiques et de leurs décisions politiques. Alors, l'existence même de cette monnaie est une dictature au niveau macro, avant même de commencer à parler de la dictature créée au niveau micro dans chaque pays.
Ok, c'est vraiment important parce que je pense que c'est très rarement abordé cette idée que la monnaie peut avoir ce rôle de force politique. Je pense que pour beaucoup de gens, la monnaie est comme une espèce de chose qui existe naturellement, alors qu'en réalité, derrière chaque monnaie se cachent des intentions politiques très très précises, avec des agendas qui sont plus ou moins alignés avec ceux des peuples. Ici, on voit bien que pour les pays qui sont sous le franc CFA, finalement, cet agenda n'est pas forcément aligné avec celui du peuple. Ça me fait penser à ce que tu avais partagé dans l'article, c'est que du jour au lendemain aussi, c'est possible que le taux change. Donc là, tu dis qu'un euro vaut 655 francs CFA. Mais si jamais la France décidait de changer le taux en disant que 1 euro vaut 1 000 francs CFA, bah finalement, les millions de personnes qui utilisent le franc CFA n'auraient pas leur mot à dire et puis d'un coup verraient leur valeur baisser de 655 à 1000. Donc, tout deviendrait plus cher pour eux.
Et vous savez, malheureusement, cela a déjà eu lieu deux fois dans notre histoire. Cela a déjà eu lieu dans les années 60 et la deuxième fois, c'était en 1992 ou 94. Bon, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quand même au début des années 90. La dévaluation du franc CFA a été un événement marquant dans tous les pays qui continuent de subir la colonisation française. C'est un événement dont beaucoup de parents parlent à leurs enfants parce que la dévaluation des années 90 a été à l'origine de la paupérisation de nos pays où la pauvreté s'est accentuée pour beaucoup de familles parce qu'elles se sont retrouvées totalement ruinées. Les gens se sont levés un matin et on les a informés que leur monnaie a perdu sa valeur de moitié. Alors les gens qui avaient une épargne de 1 000 euros se retrouve à 500 euros, une épargne de 10 000 euros se retrouve à 5 000 euros. Et non seulement ça, nos dettes publiques ont également naturellement doublé parce que si hier on devait 1 milliard de francs à la France, aujourd'hui on lui doit 2 milliards. Donc nous nous retrouvons dans une situation où on devait payer plus à la France pour les dettes qu'on avait vis-à-vis d'elle, mais on avait moins d'argent parce que notre monnaie a été dévaluée et nos populations ont été appauvries. La dévaluation du CFA, ça a totalement changé les donnes dans nos pays en ce qui concerne notre économie parce que nos nouvelles économies qui étaient en train de grandir rapidement, surtout celles des pays, comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui étaient considérés comme étant plus avancés, ont vu leur économie tomber totalement et se dégringoler. Les dettes étaient extrêmes, mais l'État maintenant devait rentrer dans un système d'ajustement structurel imposé par les institutions de Bretton Woods comme le FMI qui est toujours dirigé par les Européens, notamment les Français. Et le FMI impose des politiques d'austérité à nos pays qui ont totalement détruit en fait le capital humain dans le sens où l'État a réduit ses investissements dans tous les services qui sont extrêmement importants pour ne pas dire totalement nécessaire dans les pays en voie de développement, à savoir la santé, les budgets de la santé ont été totalement dépiécés, le budget de l'éducation a été coupé, le budget des services sociaux ont été coupés, et donc vous avez des populations qui étaient déjà vulnérables dans des pays où moins de 30% de la population était lettrée, des pays qui n'avaient pas d'infrastructures sanitaires, qui se retrouvent maintenant avec des budgets totalement restreint sur les services sociaux et qui se mettent maintenant à privatiser toutes les sociétés de l'État afin de pouvoir payer les dettes. Et on s'est retrouvé totalement était totalement affaissé et cette pauvreté-là continue jusqu'aujourd'hui parce que c'est des millions d'enfants qui n'ont pas pu aller à l'école car l'État ne pouvait plus payer insuffisamment les enseignants, ils ne pouvaient plus construire de nouvelles écoles. C'est de millions de personnes qui ont perdu leur vie parce qu'il n'y a pas de ressources sanitaires adéquates pour les soigner. La continuité de la pauvreté, en fait, est totalement liée là à cette décision monétaire et à cette mauvaise gouvernance également parce que la France a mis à la tête de nos États des dirigeants qui sont redevables vis-à-vis de la France et non vis-à-vis des populations. Donc, ils dirigent comme bon leur semble. Ils pillent le reste des ressources qui nous restent là et les mettent dans les comptes en banque étrangers. Et ils tuent, assassinent, arrêtent et torturent tout citoyen qui ose demander un minimum de transparence dans la gestion des biens publics. Donc, nous nous sommes retrouvés dans une situation totalement vulnérable à cause de cette monnaie-là qu'est le CFA, que la France nous a imposée, et à cause de cette monnaie que la France continue d'utiliser pour avoir sa mainmise sur nos pays.
Waouh, c'est vraiment touchant, en tout cas pour moi, d'entendre ça, parce que c'est une réalité à laquelle je ne suis pas confronté là où je vis, puis je trouve que c'est quand même important de le réaliser, parce que je pense que l'information sur ces questions-là permet de changer ce système, en fait. Parce que là, en réalité, on est face à un système monétaire qui est vraiment décourageant pour les gens qui vivent dedans, puisque quand bien même l'économie passerait à s'améliorer, on est toujours sujet à des changements de cet ordre-là où finalement, la moitié de ton épargne est coupée en deux et ta dette est augmentée. Donc, tu peux faire des efforts, mais il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi a une forme d'épée qui peut frapper avec. Et c'est pas facile, je trouve, dans ces situations-là, d'avoir la volonté de se battre quand on est sujet à ce genre d'impact massif. Puis là, ça touche des millions de personnes. Peut-être une question qui ouvrirait une porte vers quelque chose de plus positif, ce serait, comprenant que le système est fait de cette façon-là, donc qu'il y a un joug monétaire sur une large population qui lui prive de ou qui diminue ses perspectives d'avenir, quels seraient aujourd'hui les obstacles sur le chemin d'une Afrique libre du franc CFA? Comment on peut peut-être changer de système monétaire, d'après toi?
Le changement du système monétaire dépendra extrêmement d'une volonté politique. Et aujourd'hui, à cause de la montée de mouvements panafricains qui réclament la rupture du CFA, un mouvement qui a été galvanisé par des penseurs et des chercheurs africains et des militants africains de par le continent, la France se sent dos au mur et Macron a annoncé tout récemment que la France allait se retirer plus ou moins du CFA en conduisant à la création d'une nouvelle monnaie appelée l'ECO. L'ECO, je rappelle, était d'abord une initiative des pays de l'Afrique de l'Ouest, de la zone ECOWAS, qui voulait créer une monnaie commune comme l'euro. Mais pendant longtemps, les pays CFA s'étaient opposés à la création de l'ECO. Mais finalement, la France, parce qu'elle veut toujours continuer par jouer un rôle et ne voudrait pas rater le train, a poussé rapidement les pays du CFA de l'Afrique de l'Ouest à voler le projet ECO. Maintenant, ils créent une nouvelle monnaie qu'ils appellent l'ECO, mais qui est en fait le CFA badigeonné avec une nouvelle peinture, parce que avec l'ECO, c'est toujours, l'ECO sera toujours rimé à l'euro comme le CFA. La France aura toujours la liberté de choisir certaines des personnes qui seront dans le conseil d'administration de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. La monnaie sera toujours imprimée en France, comme c'est le cas avec le CFA. Donc, grosso modo, d'ici quelques temps, on aura une nouvelle monnaie dans les pays de CFA de l'Afrique de l'Ouest qui s'appellera ECO. Et c'est une fourberie que la France utilise, en fait, pour donner l'impression qu'elle est progressiste et que véritablement, elle souhaite laisser les pays africains regagner leur indépendance monétaire, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Alors, comment est-ce qu'on pourrait se défaire de ce monstre qu'est le CFA? Eh bien, d'abord, ça commence d'abord par la conscientisation et l'éveil des populations, parce que c'est une avant l'information ne passait pas, aujourd'hui elle commence par passer, mais les gens ne comprennent toujours pas forcément les rouages. Et il faudrait une certaine révolution. Quand je parle de révolution, je parle des populations qui sortent et qui disent nous voulons la fin de ce système et nous voulons que les choses changent. Et pour en arriver là, il faut éduquer la population, il faut sensibiliser les masses. Ensuite, il faudrait faire du plaidoyer, dénoncer en fait le revers de la main, dénoncer toutes les conséquences que le CFA engendre sur notre système, aussi bien politique qu'économique, et comment ça affecte les vies, comment est-ce que ça nous appauvrit, comment est-ce que ça nous maintient dans la souffrance et dans la pauvreté. Essayer de faire, d'exposer en fait le CFA, parce que croyez-moi, même 99% des Français ignorent que le CFA existe et ignorent que leur État fait du banditisme en Afrique et que leur État utilise une monnaie nazie pour maintenir des centaines de millions de gens dans une pauvreté abjecte. Des millions de Français ne savent pas ça. Et parce qu'ils ne savent pas ça, quand ils voient les Africains immigrés en France, ils commencent par s'énerver. Pourquoi vous les laissez rentrer? Mais ils ne comprennent pas le rôle que leur pays joue, en fait, dans le maintien de la pauvreté dans ces pays-là. Et le rôle que leur pays joue, en fait, dans l'apport de l'instabilité politique dans ces pays-là et dans la paupérisation de ces populations. Alors, il faudrait que de tous les côtés, les populations françaises comme les populations africaines soient mieux informées sur la question du CFA, puissent comprendre les enjeux, les rouages du CFA afin de mettre la pression qu'il faut sur les décideurs publics. Parce que ce sont les décideurs qui gagnent le plus et c'est eux qui gagnent de notre ignorance, c'est eux qui profitent de notre ignorance. Il faudrait qu'on puisse comprendre pour leur mettre la pression. Et une fois que cette pression sera mise, il faudrait soutenir les mouvements africains qui combattent le CFA et qui combattent la continuité de la colonisation française, ces mouvements citoyens qui combattent les dictatures imposées par la France en Afrique, afin que nous puissions maintenant, dans nos pays, avoir des dirigeants que les populations choisissent, qui sont redevables vis-à-vis de leur population et qui peuvent exécuter les ordres, ou bien je dirais les choix des populations, et qui peuvent également
répondre de leurs actes vis-à-vis de leur population. En anglais, on parle d'accountability. En français, je ne saurais, je pense que redevabilité est le terme le plus proche, même si ça ne définit pas véritablement l'essence du mot accountability. Ce que je veux rappeler, c'est qu'il est important que les populations aient des dirigeants qu'ils choisissent et qu'ils tiennent responsables. Comme cela, si les choix politiques de nos dirigeants ne nous intéressent pas, nous pouvons leur faire payer pour ça, nous pouvons influencer leurs décisions politiques et nous pouvons changer les donnes. Mais aussi longtemps que nous serons comme des pions qui n'avons aucun contrôle de nos services publics, de nos décideurs politiques, la France doit trouver un moyen pour remplacer Paul par Pierre et cela va continuer. Alors, il est question d'empouvoirment de la masse, de la population. Moi, je crois en fait réellement en une révolution qui émane de la masse populaire et cela ne peut se faire qu'en éduquant continuellement les populations et en mettant continuellement la pression sur les décideurs que la France a imposé à nos pays.
Wow, merci pour toutes ces informations. Donc, si je reprends ce que tu dis, la façon de retirer finalement le franc CFA du système, c'est vraiment d'avoir un maximum d'informations dans toutes les directions. Donc, que ce soit pour les populations affectées par le franc CFA ou par les populations qui sont plutôt de l'autre côté du bâton et qui en jouissent comme les Français qui, comme tu disais, l'ignorent probablement. Puis, c'est aussi intéressant ce que tu disais, par exemple, sur l'immigration, c'est que finalement, si tu es en France puis que ça te fait chier qu'il y ait des étrangers qui arrivent, peut-être qu'il faudrait arrêter de les appauvrir de là où ils viennent, puis ça pourrait peut-être régler aussi ce genre de questionnement-là. Donc, je trouve ça intéressant de voir l'éducation comme piste d'avancement parce que c'est finalement un point de vue avec lequel je suis assez fort aligné puisque mon podcast a vocation à être éducatif. Puis, je pense que si toi, auditeur, auditrice, c'est des questions qui finalement te perturbent, ça vaut peut-être la peine de se renseigner sur le franc CFA et peut-être de voir justement est-ce que ce que Farida est juste, mieux comprendre ces questionnements-là, puis peut-être c'est une discussion qui pourrait avoir aussi lieu sur la place publique en France. Farida, si jamais j'étais une personne curieuse justement suite à cet épisode de l'histoire du franc CFA, quelles ressources tu pointerais du doigt pour aller se renseigner par soi-même par la suite ?
Vous savez, il y a aujourd'hui une pléthore d'informations qui existent sur le CFA. Il y a des penseurs africains, je pense, qui ont écrit des livres assez intéressants, dont le premier a été écrit par le professeur Agbohou, qui a fait beaucoup de recherches sur la monnaie CFA, que vous pouvez trouver également et lire en ligne. Son nom, c'est Nicolas Agbohou. Vous avez également un livre qui a été publié par deux économistes, à savoir Ndongo Sila et Fanny Pigot. Le livre est disponible sur Amazon. Le titre, moi j'ai la version anglaise, qui le titre c'est « Africa's Last Colonial Currency, CFA ». Je pense que la version anglaise, c'est la dernière monnaie coloniale de l'Afrique, l'histoire du franc CFA. Vous allez le lire, vous serez totalement émerveillé par comment la France a pu continuer à maintenir un système aussi oppressif pendant des décennies.
Merci pour ces ressources, Farida. Je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode. Donc, si tu es curieux ou curieuse, tu pourras aller retrouver les liens vers le livre que Farida a mentionné. Puis, peut-être pour clôturer en question vers la fin, et qui va plus revenir sur la question du Bitcoin. On a parlé forcément de système monétaire, de franc CFA. On a vu comment un système monétaire avait une vocation politique. Quel rôle penses-tu que le Bitcoin a à jouer dans cette question-là, dans cet environnement-là ? Quelle place pour le Bitcoin là-dedans, d'après toi ?
Le Bitcoin, en fait, c'est une monnaie qui est unique de par le fait qu'elle n'est pas contrôlée par un État. Et parce que le Bitcoin n'est pas contrôlé par un État, les décisions et les intentions politiques n'influencent pas en fait le Bitcoin en tant que tel. C'est une monnaie qui est contrôlée par des citoyens lambda, indépendants. Et je dirais que c'est la toute première monnaie que nous avons dans les temps modernes qui jouit de ce luxe-là d'être une monnaie du peuple en fait, une monnaie décentralisée, une monnaie que tout citoyen peut utiliser, peu importe sa race, son ethnie, son origine, etc. Et cette indépendance du Bitcoin fait qu'elle diffère totalement des autres monnaies que nous avons, les monnaies fiat que nous utilisons, et surtout des monnaies coloniales comme le CFA. Et ce que je trouve révolutionnaire dans le Bitcoin, en fait, c'est que d'abord, ça permet à nos populations d'avoir un accès direct sur le marché international. C'est-à-dire, nous avons un CFA qui nous empêche d'avoir un accès au marché international parce que notre monnaie ne peut même pas être convertie directement dans la monnaie de notre pays voisin qui est le Ghana, par exemple. Il faudrait qu'on convertisse d'abord en euros avant d'aller convertir dans une autre monnaie, ce qui n'a pas de sens. Alors que quand tu as le Bitcoin, en fait, tu as un accès direct au marché international. Alors, quelqu'un peut être au Togo, avoir le Bitcoin et puis dépenser son Bitcoin pour acheter quelque chose aux États-Unis, au Japon ou en Indonésie, en fait, sans avoir à passer par ses rouages et sans avoir à payer pour utiliser sa propre monnaie. Il utilise la monnaie, mais il ne paye pas quelqu'un pour utiliser son argent. Et contrairement au CFA, à chaque fois que nous utilisons le CFA, nous devons payer la France pour ça. C'est-à-dire, c'est notre monnaie, mais on loue notre propre monnaie, notre propre argent. Alors, le fait que le Bitcoin nous donne un accès direct à un marché international. Secondo, le Bitcoin nous prévient de payer des frais sur l'usage de notre propre monnaie. Ça nous garantit une convertibilité réelle, c'est-à-dire que la monnaie du Bitcoin en dollars aujourd'hui est déterminée par les échanges de Bitcoin. Ce n'est pas déterminé par le fait que les États-Unis se lèvent le matin aujourd'hui et disent que bon voilà, je vous informe qu'à partir de demain, le Bitcoin vaut un dollar. Non, ce n'est pas les nations qui décident. C'est le marché qui décide. Et ce pouvoir-là est quelque chose que nous, les Africains issus des pays CFA, nous n'avons jamais eu de notre existence. Jamais. Et donc, le Bitcoin nous donne d'autres possibilités, nous donne un autre pouvoir et nous donne une chance de véritablement commencer à utiliser une monnaie qui est totalement indépendante, une monnaie qui n'a pas été créée dans l'intention d'enrichir une puissance coloniale à notre dépend. Parce que c'est pourquoi le CFA est une monnaie qui maintient la pression, c'est parce que le CFA a eu des monnaies. Mais pourquoi est-ce que le CFA pose problème? C'est que le CFA a été créé spécifiquement pour enrichir la France. Ça a été créé avec une mentalité coloniale, avec un objectif colonial, puiser les ressources des pays colonisés et enrichir la France. Et même à la fin de la colonisation, cela continue. Donc, le CFA ne peut qu'enrichir la France parce que le CFA n'a été créé que pour enrichir la France. C'est comme si on crée un impôt pour enrichir l'État et l'impôt ne peut faire rien d'autre à part ça parce que ça a été créé pour ça. Mais le Bitcoin n'a pas été créé pour enrichir un individu donné ou enrichir une institution donnée. Et parce que le Bitcoin n'a pas cet objectif-là, il est impossible à nos États de continuer de profiter de nous et surtout à la France de continuer de profiter de notre monnaie si nous commençons maintenant à utiliser le Bitcoin au lieu de son CFA.
Ok, donc ça veut dire que finalement le Bitcoin pourrait être une monnaie qui pourrait être privilégiée et au franc CFA et à l'écho qui serait une espèce de franc CFA badigeonné. Donc peut-être que ce qui serait intéressant finalement, c'est que d'avoir un mouvement politique qui explique aux gens, ben, regardez, on veut ni du franc CFA, ni de l'écho, mais le Bitcoin, ça peut être intéressant. Voici comment il fonctionne et voici comment vous pouvez en profiter. Peut-être ça pourrait être ça, la place du Bitcoin à jouer. Ça pourrait être un des candidats, presque un candidat des élections en quelque sorte. C'est de dire, tout est transparent, voici les règles. Si la population pense que c'est bien, ben, vous avez le choix de l'adopter, par exemple. Ça pourrait être ça, son rôle dans ce changement-là.
C'est cela.
Écoute, merci beaucoup, Farida, pour toutes ces informations. C'est du gros, gros contenu quand même. Ce que je retiens de ce qu'on a échangé, donc c'est d'un côté, donc le franc CFA a été créé avec des intentions politiques assez spécifiques qui bénéficient aux pays créateurs, en l'occurrence la France, qui favorisent la paupérisation des peuples, qui introduit une vulnérabilité aussi aux gens qui l'utilisent, car le taux peut être changé de manière unilatérale par la France, qui force des frais de change entre les différentes monnaies. Donc, pour le commerce, c'est compliqué. Or, le commerce est une composante essentielle du développement. Donc, c'est vraiment un frein très, très fort au développement. Et puis, il y a aussi la vulnérabilité dans le sens où les politiques monétaires que subissent les gens qui utilisent le franc CFA ne sont pas du tout décidées par la population, mais bien par la Banque Centrale Européenne. Ou la France, en l'occurrence, puisqu'elle a aussi son mot à dire dans ce rouage-là. Et puis, en conclusion, on a vu que le Bitcoin, lui, il est indépendant des États. Et éventuellement, ouais, il aurait la vertu de pouvoir mieux représenter la volonté des peuples. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais partager justement à l'auditoire? Donc, ce sont des gens qui sont pour la plupart en France, en Belgique ou au Canada, donc qui sont vraiment loin de ces questions-là. Est-ce que tu as un mot que tu voudrais qu'ils retiennent de toi, qui justement, avec ton histoire, avec ton parcours, quelque chose que tu voudrais leur partager?
Je pense que mon mot de fin serait de continuer de nous aider. Et par nous, je parle des peuples qui continuent de subir la colonisation française, de continuer de nous aider dans notre résistance pour la libération de nos pays, aussi bien des systèmes coloniaux, mais que des systèmes de domination locaux, parce que la plupart de nos pays sont dirigés par des dictatures extrêmement sanguinaires, violentes, où nous n'avons aucun droit. Et il est très important pour nous, les populations, de pouvoir bénéficier du soutien de ces peuples-là qui, eux au moins, ont réussi à se débarrasser du dictat et eux au moins ont réussi à créer les systèmes politiques qui leur sont redevables, qu'ils peuvent contrôler. Alors, on vous invite à soutenir notre combat et le soutien commence d'abord par l'information. Partagez l'information, partagez ce podcast, informez-vous vous-même d'abord parce que ce que moi je vous dis peut être pris comme les paroles d'un militant passionné, mais c'est quand vous allez commencer la recherche vous-même que vous allez vous rendre compte ô combien le système est complexe et extrêmement nocif, et vous serez engagé dans ce combat par passion comme nous le sommes également, et vous allez vous retrouver également à œuvrer pour essayer de soutenir ces populations qui continuent de subir la domination. Merci.
Merci beaucoup Farida, puis j'ajouterai à ça que la lutte contre la colonisation, je pense, bénéficie à la fois aux colonisateurs et aux colonisés parce que, en fait, quelqu'un qui travaille pour lui-même avec le désir d'améliorer sa vie, ses conditions, va produire plus de valeur et de richesse que quelqu'un qui est opprimé, qu'on tient par la gorge. Et finalement, les deux vont profiter de cette richesse et de cette valeur qui est créée. Si l'Afrique a la liberté de s'enrichir par elle-même, bien, il y aura du contenu africain de haute qualité un peu partout qui va bénéficier à la fois aux Européens, aux Canadiens, à tout le monde. Donc vraiment, on a beaucoup à gagner, je pense, d'arrêter ce genre de système, finalement, qui sont issus vraiment, vraiment d'une autre époque. Donc merci beaucoup pour ce partage, Farida.
Je vous en prie, merci beaucoup à vous.
Merci, au revoir.
Bien, au revoir.
Merci d'avoir écouté tout l'épisode. Si ça t'a plu et que tu veux redonner, n'oublie pas de m'envoyer quelques satoshi avec Breeze Wallet où tu peux directement me les streamer. Si toutes celles et ceux qui écoutent m'envoient 50 centimes par épisode, je serai déjà très content. Et toi, tu vas découvrir les joies de Lightning qui est bien plus simple que ce que tu crois. Alors si t'es arrivé jusqu'ici, je te propose de te lancer à l'eau. Ciao.